18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
Et le rappel des titres de Sébastien Krebs.
Ils veulent faire du 5 décembre une journée noire. Plusieurs syndicats et organisations étudiantes se joignent aux agents de la SNCF et de la RATP pour une grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Le couple franco-allemand réuni à Toulouse, Emmanuel Macron, Angela Merkel à la veille d'un conseil européen particulièrement important en pleine tension internationale sur la Syrie ou encore le Brexit. Les salariés de General Electric toujours mobilisés à Belfort. Ils entament leur deuxième semaine de blocage pour tenter d'obtenir une réduction du plan social qui prévoit la suppression de près de 800 postes. Dans l'actualité aussi ce soir, l'enquête visant Rachida Dati et le criminologue Alain Bauer confiée à 3 juges d'instruction. Information judiciaire ouverte pour abus de biens sociaux et corruption pour des contrats passés avec Renault-Nissan. Le démantèlement sans précédent d'un réseau pédophile. 337 suspects arrêtés dans 38 pays, tous en lien avec un site internet basé en Corée du Sud qui faisait commerce de vidéos d'abus sexuels sur des enfants. Et puis la France qui demande la libération d'un chercheur français arrêté en Iran, Roland Marshall, qui travaille pour Sciences Po. Il est en détention depuis le mois de juin, arrêté en même temps que sa collègue franco-iranienne. On y revient dans le journal de 19h.
Et vous serez là en direct, bien entendu, Sébastien Krebs. Merci à vous. Anissa, avec peut-être du soleil demain, mais il faut être bien placé.
Alors, pour voir le soleil demain, il faudra être le long de la Méditerranée. C'est uniquement là que vous verrez le soleil. Partout ailleurs, le ciel est gris demain, avec de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes, une bande pluvieuse assez importante avec des averses très soutenues dans ce secteur. Au nord-ouest, en Bretagne et en Normandie, sur le littoral, le vent d'ouest va souffler fort jusqu'à 80 km/h. Les températures, quasiment les mêmes qu'aujourd'hui, 5 à 16 degrés demain matin de Gap à Biarritz. Et puis il fera demain après-midi 18 degrés à Paris, 20 à Bordeaux et à Lyon et 23 pour Marseille.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix.
Avec cette actualité autour du voile, une fois encore qui ne retombe pas, on va y venir dans un petit instant. Et puis la question des djihadistes en Irak. Avec nos grandes voix ce soir, Catherine, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. On est ensemble jusqu'à 19h et nos auditeurs au 39-21. Bien entendu, je voudrais qu'on commence avec cette mobilisation. 200 personnes qui ont manifesté tout à l'heure à Besançon en soutien à cette mère voilée prise à partie. On s'en souvient le week-end dernier par Julien Odoul, élu Rassemblement National. D'ailleurs, la photo de cette maman avec son fils blotti contre elle est devenue virale parce que, évidemment, elle a énormément ému. Mais il y a tous les avis sur cette question parce que, forcément, c'est une question extrêmement clivante.
On peut même se demander s'il n'y a pas un peu de provocation. Je me demande depuis le début de cette affaire. J'ai trouvé que, par exemple, le voile, ce n'est pas un petit foulard à trois balles. Hein. C'est un vrai voile qui prend. Vous avez vu ça de près ? Bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un voile islamique tel qu'on le voit sur les islamistes radicaux ou les prosélytes. Alors, à un moment donné, je sais bien que le chef de l'État aurait dit ce matin à des proches ou hier soir, attention, parce que si on fait des amalgames entre tout ça, l'immigration, la laïcité, le voile et tout, ça va déboucher sur la guerre civile.
Il n'a pas raison, Gérard Carrérou ?
Non, mais pas du tout. Je trouve curieux de la part du chef de l'État, le même chef de l'État, rappelez-vous, qui a relancé, il y a une quinzaine de jours, le débat sur l'immigration, en disant il faut en parler, il faut l'affronter. Le même chef de l'État qui a tenu des propos très forts
après
l'attentat, et il avait raison de dénoncer l'islamisme radical, etc.
L'hydre
islamiste dont il fallait couper les têtes. Le même chef de l'État qui, effectivement, a appelé à la vigilance de tout le monde, on a même dit « attention, parce qu'il va peut-être un peu loin là », c'est le même aujourd'hui qui dit « attention, pas d'islamisme », alors que le problème du voile, c'est véritable, pour moi en tout cas, c'est une manifestation d'une forme de la loi islamique. Si vous voulez, c'est pas la loi de la République, ça, c'est la loi islamique qui amène les femmes à porter le voile.
Alors 66% des Français, il faut donner les chiffres, se disent hostiles aujourd'hui selon un sondage IFOP publié ce lundi au voile, au port du voile dans les écoles, les mamans accompagnatrices de ces enfants dans les écoles. Le sujet, c'est très compliqué, Catherine et Charles Villeneuve. C'est une ligne de crête pour Emmanuel Macron. On est vraiment sur la limite de l'exercice. Comment, effectivement, sur un sujet qui divise, et ça fait 30 ans que c'est le cas.
Oui, mais d'abord, le voile est-il un marqueur de sécession, le symbole d'un refus des femmes d'être assimilées à la société française, Moi, je dirais que lorsqu'une femme qui est une musulmane, qui est née en France et qui, vers l'âge de 20 ans, 25 ans, se voile, moi, je dirais oui. Si elle veut...
C'est son choix.
C'est son choix. Bon, je dirais autre chose de celle qui, par exemple, à Sarcelles, j'en parlais tout à l'heure avec le maire, M. Pupponi, qui me disait François il y a des Pupponi. Femmes, des primo-arrivantes, qui sont là depuis 4-5 ans, qui viennent de pays musulmans, c'est leur culture. Elles ne font pas de prosélytisme, c'est leur culture. Mais il dit, par exemple, dans une ville comme Sarcelles, dans l'éducation nationale, s'il n'y avait pas de femmes voilées pour faire des sorties pour les écoliers,
il n'y aurait pas de sortie.
Bon, alors, évidemment, Sarcelles est un cas particulier.
J'ai déjà entendu cette chanson-là. Non.
Parce qu'on en a parlé il y a moins d'un mois avec cette affiche de la FCPE. Absolument. Et c'était ce qu'on nous répondait. Bon.
Reste à démontrer. Est-ce qu'on demande véritablement aux parents, d'abord, on ne leur demande pas leur avis aux parents. Quand on leur envoie leurs enfants avec une femme voilée ou deux femmes voilées pour les encadrer, on ne leur a pas demandé leur avis.
Mais
et là, je pense qu'on pourrait leur demander s'ils veulent accompagner les enfants.
Mais alors, Charles Villeneuve, qu'est-ce qu'on fait? La limite de l'exercice, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut changer la loi? Le loi est-il souhaitable?
Non,
le
pas
voile
du tout.
Est-il souhaitable?
La loi de la République,
qu'est-ce qu'on fait?
Elle est une et indivisible.
Sur le papier?
Pas du tout. Ah. La loi de la République, si vous voulez la loi de la charia, puisque l'islam, c'est une loi. Le Coran, c'est en quelque sorte la constitution de cette loi. Cette loi de la République étant une et indivisible, y déroger, c'est instaurer. C'est, si vous voulez, différencier ce qui émerge déjà même au sein du gouvernement, c'est-à-dire la division. Parce que sur quoi est fondé le pacte républicain ? Sur une adhésion totale à un certain nombre de lois du vivre ensemble.
Oui.
Ce pays s'est constitué comment ? Ce pays a pacifié des Bretons, des Corses, des Armagnacs, des Bourguignons. Il a digéré un nombre de migrants considérables, des Polonais, des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Africains.
Sauf que,
et voilà que maintenant, depuis 30 ans d'ailleurs, depuis l'époque, c'était la cohabitation entre Jacques Chirac et comment il s'appelait
Lionel
déjà
Jospin.
Le Premier ministre, j'ai oublié,
Lionel Jospin,
on a ouvert un débat autour du voile à l'école.
Ça fait 30 ans, c'est ce que je dis. Sauf qu'on a beau rappeler la loi, les affaires...
Le président de la République, vous savez, il y a des variations saisonnières, le président de la République varie en permanence. D'ailleurs, tu l'as très bien démontré, Gérard, parce qu'en réalité, il ne sent pas ce débat sur la voile. La preuve, c'est qu'il repousse en permanence son allocution, sa philosophie en ce qui concerne la loi sur la laïcité.
On se retrouve dans un instant. On va poursuivre évidemment ce débat, vous l'avez compris, qui est là encore sur la scène. Et on n'en a pas fini dans un instant avec nos auditeurs aussi.
Vous pouvez intervenir au 39-21. Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrero et toutes vos réactions en direct au 39-21 et sur Twitter, hashtag Europe 1.
Et on revient évidemment sur cette question du voile qui fait débat avec ce nouveau rassemblement d'initiatives citoyennes aujourd'hui à Besançon pour soutenir cette mère de famille voilée qui a accompagné ce groupe d'enfants venus de Belfort et qui a été véritablement conspué par Julien Audou, élu du Rassemblement National. La question, elle est compliquée. On a entendu le Premier ministre Édouard Philippe rappeler hier qu'il n'y avait pas l'intention de légiférer. On voit bien que le sujet est brûlant dans sa propre majorité. On en parlait juste avant. Ça tire de tous les côtés.
Oui, mais enfin, les électeurs d'Emmanuel Macron veulent taper fort. 76% d'entre eux réclament une interdiction des signes religieux ostensibles aux parents accompagnateurs de sorties scolaires. C'est quand même clair. C'est à peine moins fort que les électeurs des Républicains qui, eux, sont à 83%. Ce n'est pas étonnant. Mais 76% des électeurs des marcheurs, c'est étonnant. On dit que c'est très compliqué. Mais dans l'esprit du président, ça l'est, c'est vrai.
Mais
dans l'esprit
Charles,
de ces électeurs,
jusqu'où interdire le port du voile sans tomber dans la discrimination, l'atteinte aux droits de l'homme, la question, elle est là
aussi.
Mais
c'est le problème. Ça ne peut être fait, juste un mot, Catherine, ça ne peut être fait qu'avec les musulmans, pas contre les musulmans. Là, je suis d'accord.
Catherine Ney.
Oui, non, mais ce qui est très compliqué pour Emmanuel Macron, c'est que dans son gouvernement même, regardez à Bercy, entre Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Cédric O, ils ne sont absolument pas sur la même ligne. Les deux premiers sont vraiment pour interdire le voile, et le troisième, il ne comprend pas pourquoi on ne le laisserait pas. C'est, et au gouvernement, le monsieur
gouvernement,
Blanquer,
Jean-Michel Blanquer, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui ne sont pas sur la même ligne.
Alors comment trouver une ligne quand vous avez votre majorité? Bon, on sait que dans la majorité, il y a des gens qui sont venus en marche, qui étaient plutôt de droite, et puis il y a eu un apport de gens venus de gauche, et que c'est un clivage droite-gauche. Mais c'est très compliqué. Comment on fait la synthèse quand on est en marche?
Quand on voit M. Blanquer, Blanquer est courageux, puisque le Premier ministre a pris position hier en disant pas de loi là-dessus. Blanquer, aujourd'hui à l'Assemblée, non seulement ne rétro-pédale pas, mais il dit exactement qu'il continue à dire le voile n'est pas souhaitable. C'est une position forte. Et de la même manière, ce matin, maire, qui est quand même un principal ministre, le maire dit le voile n'est pas le rêve pour les femmes françaises.
Oui. Alors attendez, on va prendre, si vous voulez bien, les grandes voix. On s'interrompt pour laisser parler Amine de Pau. Bonsoir Amine, bienvenue, merci de nous contacter. Quelle est votre position, Quelle est votre position?
Bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bon, ma position est la suivante. Je pense qu'il faut apaiser les choses. Je pense que ça fait plus de 30 ans que nous parlons d'un fichu, un foulard. Les uns le prétendent que c'est un symbole politique. Moi, en tant que musulman, je connais beaucoup de femmes qui portent ce voile et qui n'ont pas vraiment l'intention ni de choquer, ni de faire un symbole politique. C'est une tradition. Je ne sais même pas si c'est une obligation pour les musulmanes. En tout cas, ce n'est pas un symbole politique. La deuxième chose, je pense que, comme a dit M. Carreau, il faut peut-être faire des lois, mais des lois, on en fait tellement qu'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Respectons d'abord les lois qui existent, les lois sur la burqa, les lois sur le voile intégral, respectons-les, et à partir de ce moment-là, on peut voir autre chose. Mais il faut le faire avec les musulmans. Mais quels sont les musulmans là? Il faut le faire avec les musulmans, parce que moi, je vous écoute tous les jours.
Mais est-ce qu'ils sont prêts?
Pas contre.
Est-ce qu'ils sont prêts à venir autour de la table et à discuter? Est-ce qu'ils sont prêts à cela?
Je pense que les musulmans sont prêts, mais les musulmans, ils sont mal représentés. Et c'est ça le grand problème. C'est qu'aujourd'hui, les musulmans ne se sentent pas représentés ni par le CFCM, ni par la mosquée de Paris. Ils ne savent pas qui a mis ces gens-là à leur place. Écoutez, je vois, en deux mots, je sais que c'est pressé. Au temps de monsieur le président Sarkozy, il y avait justement la création de ce comité représentant des musulmans. Je voulais participer et voter. Je savais qu'il fallait faire. Pour voter, il fallait être membre d'une association depuis 3 ans, être à jour de ses cotisations, alors qu'il suffisait juste d'être musulman pour le faire. Je l'étais et je le suis. Donc on ne m'a pas donné ce droit de choisir celui qui va parler à ma place. Et c'est pour la simple raison qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui sorte du lot, un groupe qui sort du lot, qui nous dise « bon, voilà ce qu'il faut faire ». Les musulmans, ils sont là, ils veulent juste vivre dans la sérénité, dans un pays qu'ils aiment, dans un pays dont les parents ont défendu. Et je pense, pour finir, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je pense que tous ceux qui nous sortent le foulard à chaque fois, il y a une autre lecture à voir. La seule lecture, c'est qu'ils rejettent les musulmans et l'islam, et le foulard n'est qu'un prétexte.
Merci beaucoup, Amine. Merci pour vos paroles ce soir, votre prise de parole depuis Pau. Et on vous invitera régulièrement à participer à cette discussion dans les grandes voies. Voilà, comment ne pas tomber dans la naïveté, comment faire face à aux dérives communautaires de radicalisation, ne pas tomber dans un excès inverse, c'est tout le problème de cette question du voile. Et c'est le cas depuis 30 ans. On va changer de sujet dans quelques instants avec moi. Vous êtes d'accord, les grandes voies? On se retrouve dans une seconde.
N'hésitez pas à interpeller les grandes voies, ça se passe aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy jusqu'à 19h. Nathalie, vous êtes entourée des grandes voix ce soir. Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et toutes vos réactions en direct, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21, 50 centimes la minute.
Comment juger les djihadistes français de Daesh détenus dans la zone irako-syrienne? Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, va très prochainement se rendre en Irak pour discuter de la création dans ce pays d'un dispositif international de jugement. À vous trois, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Catherine, mais ce dispositif, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez par là?
Mais
comment vous le comprenez?
Mais c'est la sous-traitance, c'est quand même une méthode, c'est presque une doctrine en France.
Explicitez votre propos, Charles.
La sous-traitance, la sous-traitance en matière de guerre est devenue une politique de plusieurs gouvernements, notamment de l'Europe. On sous-traite, c'est-à-dire on a sous-traité la guerre contre Daesh au nom de la France auprès des Kurdes. Les Kurdes qui eux-mêmes sous-traite avec des miliciens d'associations, si vous voulez, défensives arabes sur place. Et on les entraîne à la guerre en pleine, parce que ce sont des combattants de la montagne. Et la coalition les appuie sur le plan aérien avec l'armada américaine et aussi des rafales et des super-étendards, etc. Enfin, il n'y en a plus de super-étendards.
D'accord, mais quand il va s'agir de les juger, il va bien falloir un moment, s'agissant à la fois de djihadistes étrangers, mais de djihadistes français.
Oui.
Là, il va falloir prendre les choses en main.
Mais on les juge en Irak. L'Irak est un État. L'Irak, il y a des tribunaux.
C'est pas exclu.
Alors on va dire tout de suite, on va nous dire que l'Irak, oh là là, c'est pas possible, ils ont la peine de mort. Ah oui, ben il y a d'autres pays qui ont la peine de mort. Commencer par la Chine et les États-Unis, par exemple.
Mais ils peuvent être jugés là où ils ont commis des exactions. Là où ils ont tué, si vous voulez, des soldats irakiens. Là où ils s'en sont pris avec la population, notamment chiite. Mmh. Il ne faut pas oublier que la majeure partie des Irakiens sont des chiites. Et donc, il y a un antagonisme, vous le savez, avec les sunnites, auxquels appartient justement la plupart des soldats, si on peut appeler ça des soldats, en tout cas des militants armés de Daesh. Mmh. Et à partir de là, si vous voulez, il faut dire les choses. Les faire revenir en France, c'est importer un ferment de radicalisation dans les prisons, et dont on sait justement que ce sont de véritables formateurs de radicalisation dans les prisons françaises.
Catherine Ney.
Il faut quand même écouter les Français, ce qu'ils disent. 89%, c'est un sondage au Doxa Dentsu Consulting, 89% des Français ne veulent pas que les djihadistes français soient rapatriés. 89% approuvent le gouvernement français lorsqu'il dit qu'il faut les juger en Irak. Parce qu'en cas de retour, les problèmes que poserait leur retour, à la fois les problèmes de sécurité, de surveillance, poste pénitentiaire aussi, le coût aussi, et le suivi, non mais je veux dire, c'est des sommes d'argent énormes. Et déjà, notre justice a des gros problèmes et d'effectifs, de manque. Donc là, je comprends aussi qu'on sous-traite ce problème. Ils ont voulu partir. Oui. Ils ont fait des exactions en Irak.
Ils ne voient pas ça nécessairement d'un bon œil. Eux, ça ne les arrange pas. Ils n'ont pas envie de se retrouver encore avec les instances des droits de l'homme qui vont leur dire vous êtes encore.
Oui, ça rejoint, si vous voulez.
Condamnation à la peine de mort, ils n'ont pas envie d'avoir cette mauvaise image.
Là, ça rejoint le fait que les problèmes, si vous voulez, juridiques et politiques, à l'égard justement de l'opinion publique française, ont certainement paru largement supérieurs aux avantages de les ramener en France et de les faire juger en France avec, si vous voulez, évidemment, toute la peine qu'ils doivent effectuer avec tous les dangers que ça implique. Alors maintenant, c'est vrai que se pose la question de la peine de mort. L'Irak condamne à mort et exécute, en général rapidement après les décisions, bien qu'il y ait aussi évidemment un appel et même une cour de cassation. Et là, c'est à la représentation diplomatique française de faire valoir, si vous voulez, ce droit et le fait qu'en France, la peine de mort a été abolie depuis 1980.
Mais aucun n'a été exécuté à ce jour, alors qu'une quinzaine, je crois, ont déjà été condamnés à mort. Ce qui prouve que le gouvernement français est intervenu par les voies diplomatiques habituelles. Les condamnations ont été prononcées, rappelons-le. Les associations de défense des droits de l'homme sont montées au créneau. Et personne n'a été, à ce jour, alors ça peut changer demain, mais à ce jour, aucun djihadiste convaincu par la justice irakienne n'a été exécuté.
On rappelle qu'on parle de 11 djihadistes français extraits de Baghouz.
Et Jean-Yves Le Drian va se préoccuper. De toute façon, on l'a déjà fait sur le plan diplomatique, notamment le consul général français à Bagdad s'en est préoccupé. C'est lui qui assure le suivi, justement, de cette option-là.
Alors, comment la France va régler cette question avec la présence sur place de Jean-Yves Le Drian? Quand on parle de ces prochains jours, mais sans précision.
J'ai vu qu'il partait ce soir.
On a une source qui dit qu'il partait ce soir, mais on attend la certitude. Merci aux grandes voix ce soir, Catherine Ney, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve dans ce studio. On se retrouve, nous, dans un petit instant. Europe 1.